La Voz Sin Fronteras.
La Voz Sin Fronteras.
Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers.
صوت بلا حدود.
لا فوا سان فرونتيير.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous tous qui nous écoutent bien sûr sur les antennes de Radio Panique. Bonsoir à nos amis qui se trouvent sur place. Aujourd'hui, on est des cas. On va y aller ensemble au débat avec des personnes qui se trouvent sur plateau et bien sûr avec des témoignages pour faire un lien entre le sud et le nord. Bien sûr, on va y aller au Maroc. C'est pas pour le tourisme. Cette fois, c'est pour y aller voir les violations du droit humain. Comment ça se passe là-bas? On a quelques témoignages qu'on a récoltés sur la question, bien sûr, des prisonniers politiques et spécifiquement des journalistes prisonniers politiques. On a une invitée sur place, bien sûr, une défendeuse de droits humains qui va nous parler sur la situation aujourd'hui du droit humain au Maroc et sur les situations des prisons.
Mais avant ça, Saïd, nous allons écouter un extrait d'une interview d'Omar Radi effectuée lors de l'émission marocaine 1D2C le 25 août 2018. La nouvelle année, le roi a retiré sa confiance en toutes les institutions du pays, à l'exception de l'appareil sécuritaire. C'était un message clair. Personne ne joue son rôle, ni administration, ni ministère. Seuls deux organismes fonctionnent, le patronat et les appareils sécuritaires. Là, l'État a donné carte blanche aux appareils sécuritaires qui ont renforcé l'État policier, qui nous rappelle les méthodes de fonctionnement de la Tunisie sous Ben Ali. Et on a vu que la police et les renseignements ont contrôlé le Maroc cette année beaucoup plus qu'avant. Pour un État policier comme le Maroc, construit sur l'asservissement et sur des valeurs anciennes et aux antipodes de la démocratie, des droits et des libertés, la libération des détenus de l'Irak ne peut être que la résultante d'une série de dialogues avec les détenus, comme c'était le cas avec les salafistes, les visions idéologiques, avec les imams, etc. Tout cela n'a pas eu lieu. Durant 16 ans, le modèle de développement était basé sur ce qu'on appelle les champions nationaux. C'est la théorie du ruissellement que suit également Macron. La conséquence directe de cette politique, c'est qu'on a aujourd'hui le capital qui s'engraisse. Sans entraîner dans son ascension l'ensemble de l'économie, sans améliorer l'économie dans son ensemble comme on nous l'avait promis.
Il faut arrêter, je pense, vraiment, de chercher des justifications à l'incompétence du palais, qui est l'unique responsable de ce qui s'est passé. Les aspects de le bilan,
parmi les aspects de ce bilan qui me frappe, ce sont les chiffres dévoilés par le Haut Commissariat au Plan qui disent que 3,5 millions de jeunes entre 15 et 29 ans n'ont pas fait d'études et sont au chômage. Ces jeunes sont de la génération Mohamed VI. Ces chiffres reflètent l'échec du modèle. Un autre signe, ces chiffres révèlent que 100 ingénieurs en informatique quittent le pays chaque mois.
Ceux conformes avec l'argent public, les médecins, les ingénieurs, etc., veulent quitter le Maroc. Et je pense que n'importe qui a l'occasion de quitter le Maroc, Radim Chi dira. Si j'en fais partie, là n'est pas la question, non, pas immédiatement. Je veux rester au Maghreb.
Le deuxième mensonge est le suivant. Pendant 20 ans, les gens y ont cru. Rien ne marche et le roi est le seul qui sait travailler. Les administrations ne fonctionnent pas, les partis non plus, etc., etc. La monarchie a passé 20 ans dans la poursuite du travail de Hassan II et passerie dans la destruction des partis politiques, leur blanchiment et leur façonnage, en magouillant dans les processus électoraux. électoraux et tous les programmes exécutés par le gouvernement ont été conçus par les palais royaux. Par de la Méditerranée, le plan Azur, etc. Ces projets sont la plupart voués à l'échec car ils ont été conçus sans concertation avec les populations concernées. Donc s'il y a un échec du modèle de développement dont parle le roi, c'est essentiellement un échec de la conception de ce modèle. Donc s'il faut désigner un responsable de cet échec, ça serait le roi. Le problème est un problème constitutionnel, ce qui nous ramène à 2011. Il faudrait qu'on revienne à la source. Le problème du Maroc est constitutionnel. Ce n'est pas un problème d'engagement international.
Juste une rapide présentation donc d'un journaliste marocain, Omar Radi, qui est emprisonné depuis le mois de juillet, alors pour l'instant en détention préventive. Il est accusé d'espionnage, de porter atteinte à la sécurité de l'État, de financement extérieur, d'évasion fiscale et plus récemment de viol. En tant que journaliste, il travaille essentiellement sur les mouvements sociaux, les questions de droits humains, de corruption, et il est ainsi, pour ses raisons et pour son travail, dans le viseur de l'État. Donc dès décembre 2009, il est incarcéré pour avoir critiqué dans un tweet une décision de justice, mais il sera libéré quelques jours plus tard grâce à la mobilisation de divers soutiens, de beaucoup de soutiens. Et au mois de juillet, lors de la dernière accusation qu'il a reçue, donc l'accusation pour viol, il avait déjà été longuement accusé d'espionnage et reçu de nombreuses convocations. Le problème dans lequel se trouvent du coup Omar Radi et d'autres journalistes et militants, c'est que le soutien public est rendu très compliqué parce que les personnes qui soutiennent publiquement reçoivent des menaces du régime. Alors beaucoup d'entre eux se taisent. Et une autre problématique qui est soulevée, c'est que c'est un prisonnier politique, mais aussi sans forcément le dire, par des moyens détournés, et ce qui apparemment du coup est quand même de plus en plus utilisé ces dernières années. Et donc de cette manière, ça rend plus difficile de soutenir publiquement ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas accusées forcément directement pour des choses politiques, mais par exemple, pour le cas d'Omar Radi, comme cette accusation de viol. Et donc il y a cette position à prendre de comment soutenir le caractère politique de cette accusation, tout en ne remettant pas en cause tout ce mouvement de libération de la parole des femmes dans le cadre de cette accusation. Donc il y a vraiment cette problématique, et tout le monde s'accorde à dire que les diverses accusations sont bel et bien politiques et que le Maroc veut faire taire les journalistes récalcitrants en les emprisonnant, en intimidant et en muselant les soutiens. Et malgré ça, quand même, il faut le dire, il y a divers réseaux nationaux et internationaux qui s'organisent afin de réclamer la liberté d'Omar Radi, de tous les journalistes et militants et militantes emprisonnés.
Merci Pauline. Bien sûr, on va savoir plus sur ça avec notre invité. On va passer à quelques témoignages des gens vraiment qui sont plus proches d'Omar Radi, avec Driss Radi, le père d'Omar Radi.
Enseignant à la retraite et militant au sein d'un parti politique de gauche, je milite pour une société socialiste démocratique depuis que j'étais étudiant au lycée. En ce qui concerne Omar, il montrait un intérêt à la politique depuis son année de lycée, puis participait aux colonies de vacances organisées par l'Association marocaine pour les droits de l'homme. Cette orientation s'est développée à la Faculté des sciences économiques, où elle s'intéressait à l'économie du Maroc et aux autres causes sociales en général. C'est ainsi que s'est formée cette conscience de prendre la responsabilité auprès des jeunes comme lui. À l'âge de 20 ans déjà, il publiait ses premiers articles dans les journaux nationaux, progressistes notamment, où il diagnostiquait et analysait l'évolution de l'économie marocaine et l'impact de l'ouverture sur l'économie mondiale à travers les zones de libre-échange. Ouverture à laquelle il a été fortement opposé parce que l'économie marocaine n'était pas préparée à ce genre d'échange.
كان ديك الساعه ترشح باش يكون خدام في شي راديو هكذا ديال راديو اتلانتيك
Au même jour où il a décroché sa licence en économie, il a été recruté en tant que journaliste au sein de Radio Atlantique, où il présentait une émission intitulée EcoBooz. Par la suite, il a évolué dans plusieurs stations radio, Radio Luxe, Med Radio, ainsi que dans certains journaux marocains comme Le Journal. Il a contribué à côté de plusieurs journalistes marocains à créer l'Association marocaine des journalistes d'investigation en 2015. Association qui a été victime d'oppression. Mais Omar n'a pas baissé les bras. Il a continué à approfondir sa formation en matière de journalisme d'investigation. Il a pu ainsi publier plusieurs enquêtes sur la fraude et la pourriture du système économique au Maroc. En 2019, il a été le seul journaliste marocain à avoir décroché une bourse de la Fondation Bertha Foundation sur le thème du droit à la terre. Il s'est intéressé au combat des femmes sous l'Aïlat au Maroc, qui étaient lésées dans leur droit à dispenser des terres collectives au même niveau que les hommes. Le 22 juin, juste après la publication du rapport d'Amnesty International, le gouvernement marocain a rendu public une information qui stipulait que Omar Radi était un espion qui travaillait avec des services de renseignement extérieur. Deux jours après, il a été interpellé par la police judiciaire pour des interrogatoires interminables de 6 à 7 heures chacun, et cela a duré presque un mois. Et comme le procès-verbal de la police volumineux de 500 pages n'a pas pu prouver de relation avec aucun service de renseignement extérieur, on soulevait une autre cause pour l'écraser en l'accusant de viol. Chose que Omar n'a pas niée, en confirmant que sa relation avec la fille en question était une relation consensuelle et que la fille était majeure puisqu'elle avait 34 ans. Omar a été arrêté le 29 juillet, la veille de l'Aïd el-Kabir, fête musulmane, à la fête à la manière d'un enlèvement. Il était interpellé pour plusieurs actions en justice qui relevaient toutes de la liberté d'expression. Et depuis son arrestation jusqu'à aujourd'hui, sa famille ne l'a pas vu une seule fois. Actuellement, il est mis en isolement et la seule réclamation qu'il fait, c'est de pouvoir rencontrer son ami Souleymane pendant la récréation de promenade pour pouvoir parler à quelqu'un. Et d'un autre côté, le fait d'être isolé dans une cellule, chacun est un confort par rapport à ce que pouvait être la situation s'ils étaient mis avec des inculpés de droit commun. Je suis tout à fait d'accord avec Omar quant au principe, même si je ne partage pas des fois sa manière trop audacieuse de traiter les certains sujets. La chance qu'a Omar, c'est le soutien qu'il a pu avoir ainsi que sa famille. Un soutien international venu des quatre coins du monde, en plus du soutien de ses compatriotes qui solidarisent sans réserve avec lui et sa famille. Et en prison, Omar supporte bien son cas. Il affirme que c'est une aventure qu'il veut réussir. Il sait et affirme qu'il paye le prix pour son expression et ses positions.
Merci Clara. Bien sûr, on va passer au deuxième témoignage, la femme de Souleymane Rissouni.
Souleymane Rissouni, avant son arrestation, il était journaliste, rédacteur en chef du journal Akhbar Lyom. Il rédigeait des éditoriaux pour le même journal. Donc Souleymane était l'un des plus fervents défenseurs de la liberté d'expression. Et il a exprimé à travers ses éditoriaux, en plus d'être parmi les fondateurs des comités de solidarité avec tous les journalistes arrêtés avant lui. Ainsi qu'il est membre de l'Association marocaine de droits humains et membre fondateur de l'association ATTAC dans la région Nord, et beaucoup d'activités en fait en parallèle. Alors pour l'arrestation de Souleymane, Souleymane a été arrêté au cours du dernier mois mai Et cela a été fait par des gens de la sécurité en tenue civile, une heure avant la rupture du jeûne du Ramadan. Donc, un véhicule à quatre roues motrices l'a conduit de son domicile en bas de chez moi, un endroit que nous ne connaissons pas en premier lieu. Donc, avant l'arrestation de Souleymane, lui et nous, en tant que famille, nous avons plutôt été soumis à une campagne de diffamation odieuse visant notre vie privée et professionnelle. Et les auteurs, bien sûr, de cette campagne ont diffusé nos photos d'une manière qui ne respecte pas les rudiments du professionnalisme et ils ont publié des photos sur les sites connus pour être officine des services sécuritaires, donc, mais plus, ou plus, ou plutôt le plus dangereux de tout. Et c'est les mêmes sites, en fait, qu'ils ont publié la date de son arrestation avant l'arrestation même. Donc, c'était la même chose que c'est produite avec la plupart des journalistes qui ont été arrêtés après Souleymane, mais aussi avec l'historien Maté Mojib, qui a été l'un des défenseurs aussi les plus virulents des journalistes arrêtés d'une manière qui sent la vengeance. Okay. Alors, Souleymane a fait l'objet d'une série de violations, à commencer par la méthode de son arrestation, qui aurait dû être légale en le convoquant, car il a toutes les garanties d'être présent. Puis, il a été empêché de se communiquer avec ses avocats après la fin de la détention provisoire et également après bien sûr, l'incarcération. Il n'a pas pu aussi se communiquer avec sa défense pendant 15 jours qui se dévoile, en fait, ou plutôt qui dévoile des violations de la Constitution et des violations aussi juridiques. En revanche, la détention de Souleymane est prolongée malgré l'absence des preuves, alors que sa défense a demandé plusieurs reprises une mise en liberté provisoire, mais la demande a été refusée, plutôt rejetée à chaque fois par le juge d'instruction. Alors, Souleymane est toujours en détention provisoire, malgré la fin de l'enquête. Et en fait, ce qui renforce notre conviction que sa détention est arbitraire et abusive. Souleymane est maintenant détenu à l'isolement depuis 8 mois, dans des conditions difficiles. Il n'a pas le droit, en fait, de communiquer avec quiconque à l'intérieur de la prison, en plus du fait qu'il passe la récréation seul. Et nous avions demandé, en tant que famille, qu'il puisse quand même passer ses pauses avec d'autres prisonniers, mais la demande a été refusée. Aussi, il faut savoir que la prison demeure une prison, même si nous essayons d'améliorer ses conditions. Car au final, la personne emprisonnée, je parle de Souleymane notamment, donc, est une personne qui a défendu honnêtement la démocratie dans son pays à travers ses éditoriaux. Et c'était une personne qui a eu le courage quand même inlassable pour critiquer les erreurs de l'État dans sa gestion des politiques publiques. Et c'est ce que les autorités, en fait, n'acceptent pas. Et donc, ils l'ont mené en prison alors qu'il devait être libre, avoir l'occasion quand même de se défendre. Mais en tout cas, Souleymane risque, disons, de prison, en fait. Ben, de toute façon, moi, je suis en contact avec la famille de Omar Radi. Et j'essaie d'être en contact aussi avec la famille de Maté Mojib et ses amis aussi, pour quand même avoir ses nouvelles. On essaie, en fait, de se contacter et de s'entraider l'un à l'autre, parce qu'on passe vraiment par des moments très, très difficiles. En tant que famille, en fait, nous souffrons de l'injustice et de la vengeance et des conséquences de cette détention politique. Donc, Souleymane est aussi le père d'un enfant d'un an et demi. Il ne l'a pas revu depuis l'âge de 9 mois. Je suis maintenant l'épouse d'un journaliste détenu. Je suis en train de perdre mes amis qui sont maintenant derrière les barreaux. Je parle là de Omar Radi et Maté Mojib. soutien très remarquable de la part de la MDH, ce que vraiment je considère comme un coup de pouce psychologique pour la famille, surtout. Bien sûr, et on a aussi des gens qui étaient avec la cause et contre la détention de Souleymane, à travers ses tweets, des statuts sur Facebook et tout ça. Bien sûr, au niveau international, les mécanismes, on considère l'arrestation de Souleymane Raissouni en tant qu'arrestation arbitraire. Plusieurs associations tunisiennes aussi ont déclaré leur soutien et la libération de Souleymane Raissouni, ainsi que la France, ainsi que l'Espagne. Beaucoup de gens, en fait, la vérité... ils étaient contre la détention, généralement. Notre revendication en tant que famille, que Souleymane soit libéré, afin qu'il retourne chez lui et qu'il puisse s'occuper de son fils. S'ils veulent nous prouver qu'il vient à l'application de la loi et qu'il respecte son esprit. Donc, je ne peux considérer son arrestation qu'un acte de vengeance, la vérité.
En exigeant tous et toutes, bien sûr, la libération à Souleymane, à Omar et à tous les prisonniers politiques dans le monde entier. Merci, Khoud, un grand merci de ta participation aujourd'hui.
Merci à vous. Merci. Merci à vous.
Merci. On va passer, bien sûr, à notre invité, Nidal. Bonsoir, Nidal. Bien sûr, Nidal, en écoutant ces témoignages-là, ça nous fait vraiment un truc. Et on voulait savoir plus large avec toi, comment est la situation aujourd'hui au niveau du droit humain au Maroc.
Tout d'abord, merci pour l'invitation et merci aussi pour le choix du thème qui va nous permettre de mettre un peu la lumière sur la question de la détention politique au Maroc. Donc cette année encore, les autorités et le régime marocain, comme on vient de l'entendre, a harcelé des journalistes, a poursuivi des blogueurs, il a harcelé des militants, des artistes, des activistes des droits humains. Nous avons des chiffres qui illustrent ce que je viens de dire. Selon le dernier rapport de la MDH, le nombre de détenus politiques au Maroc s'élève à 311 détenus, dont la plupart ont été poursuivis dans le cadre du mouvement de Hirak du Rif. C'est un mouvement contestataire dans le nord du Maroc et aussi dans le cadre du mouvement de contestation de Jarada. C'est aussi une région dans le nord-est du Maroc. C'était une région minière. Et maintenant, les jeunes de la région, après la fermeture des mines, les jeunes se retrouvent sans emploi, sans aucune activité économique. Et du coup, ils ont commencé à travailler de manière, disons, informelle. Et il y a eu beaucoup d'arrestations, de poursuites à l'encontre de ces jeunes. Et maintenant, on compte près de 80 détenus. Dans cette région de Jarada. Il y a aussi les détenus sahraouis, près d'une trentaine de détenus sahraouis, et aussi d'autres détenus. Je cite deux exemples. L'exemple d'un blogueur qui s'appelle Soufiane Al-Naged, qui a été condamné à 2 ans d'emprisonnement pour avoir publié des posts sur Facebook. Je cite aussi le cas d'un rappeur marocain qui est connu sous le nom de qui a été condamné à une année d'emprisonnement pour outrage à un corps constitué. Le rappeur, il s'appelle Gnaoui. Son vrai nom, c'est Mohamed Mounir, mais il est connu sous le nom de Gnaoui. Donc, il a été condamné à un an d'emprisonnement. Et voilà, donc, selon aussi le dernier rapport de RSF, le Maroc est classé, occupe le 33e rang sur 180 pays dans le classement de la liberté de la presse. Et aussi, on peut citer la dernière arrestation du chercheur et de l'enseignant universitaire Mahdi Mounjib. Oui, il a eu lieu il y a quelques jours, une semaine ou 10 jours, si je ne me trompe pas. Et donc, Mahdi Mounjib, qui a lui-même qui est accusé depuis 6 ans déjà, depuis 2015, qui est accusé avec d'autres membres de son association d'atteinte à la sécurité de l'État, de financement étranger illégaux. Et donc, son procès avec les autres membres de son association dure depuis des années. Et il est à chaque fois reporté. Il a été récemment arrêté. Accusé de blanchiment d'argent, etc. Donc, c'est un procès qui n'a pas encore démarré. Il est détenu provisoirement. Voilà, en attendant le démarrage de son procès.
Alors, aujourd'hui, on voit vraiment, c'est comme tu viens de le citer, les rapports de l'AMDH ou d'autres rapports des organisations vraiment qui sortent aujourd'hui sur la question des droits humains. Au Maroc, on voit vraiment que toutes les accusations, c'est que vraiment les mêmes scénarios, ce qu'ils font pour les militants. Et ça se voit avec les militants de Hirak, par exemple, Zafi et d'autres. T'as l'accusation de espionnage et les viols, la violation. Ça veut dire l'espionnage. Ça veut dire Zafi, il était vraiment condamné comme quoi quelqu'un qui a des liens au niveau de l'Europe, etc. Et ça, c'est des étiquettes. On le voit avec, par exemple, Omar Radi. L'espionnage et la violence, c'est vraiment d'étiquette pour parce que voilà, c'est des gens qui gênent ou qui dérangent le régime, n'est-ce pas? On va écouter un vidéo bien sûr ensemble d'Omar Radi où il parle sur le point très très précis au Maroc, c'est la question des terres.
Les ressources de l'État sont en train de s'effondrer parce que on l'oublie souvent. Le grand capital a profité des marchés publics, ils ont pillé les ressources de l'État et on a accéléré la dépossession des citoyens. Et maintenant, la violence des dépossessions s'accélère. Par exemple, les cas d'expropriation des terres collectives, etc., pour alimenter des projets. Un autre exemple que beaucoup de gens ignorent, dans le Rif, et mis à part la mort du poissonnier Morsi Fikri, il a été décidé l'expropriation de 30 000 hectares de terres agricoles en 2016. C'est Ben Kiran qui l'avait signé avant son départ. 30 000 hectares entre Ketama et Al-Hosseina ont été expropriés et les habitants ont été virés de l'endroit pour alimenter l'assiette foncière du projet phare de la Méditerranée. Des terres entre Ketama et Al-Hosseina, les cultivateurs de cannabis n'ont plus rien. Les agriculteurs ont été dépossédés. 10 000 sur les 30 000 hectares seront
dépossédés.
Parmi les raisons de la colère des gens, il y a cette dépossession. Concrètement, c'est une modification énorme dans la région du Rif, mais on l'a vu dans plusieurs endroits, plage des Nations à Rabat, Ijde, Oudaya, etc. Tout cela montre que les ressources de l'État ont été pillées avec cette politique des champions nationaux. À Doha, prendre des terres gratuitement, Alliance pareil, les marchés avec l'État, etc. Maintenant, ils cherchent où trouver des ressources financières pour financer ce développement de l'État. C'est pour cela que la violence à l'égard de ceux qui n'ont aucune résistance, c'est-à-dire les habitants des terres collectives, etc., augmente avec le temps. Tout ça ne fera que provoquer de nouveaux mouvements sociaux dans le futur. L'histoire va donc se répéter, mais peut-être pas de la même manière, parce que l'humiliation et l'injustice subies par les Rifains, qui malgré tout sont restés pacifiques, c'est extraordinaire.
Alors, comme on a écouté, bien sûr, cette vidéo ou l'intervention d'Omar Radi là-dessus, directement, c'est un sujet parfois qui est sensible pour le régime aujourd'hui, de parler sur la richesse au Maroc. C'est ça ce qu'il dérange aujourd'hui, le régime qu'il met vraiment ces violences-là. Qu'est-ce que, Nedal, qu'est-ce que, comme des organisations défendeurs de droits humains, etc., qu'est-ce que vraiment vous apportez à ces questions-là comme des mobilisations au niveau du Maroc et au niveau de l'Europe?
Si tu permets, j'aimerais bien revenir à une question que tu as relevée tout à l'heure. C'est par rapport à la nature des poursuites à l'égard des journalistes. Je tiens à noter que depuis 2012, en fait, le régime marocain, il engage des poursuites envers des journalistes avec des accusations relevant du code pénal. Et ça, c'est nouveau. Parce que avant 2012, avant cette ère de régression qui a commencé au Maroc depuis 2012, avant, les journalistes ils étaient poursuivis par le code de la presse. Donc la question de solidarité était plus claire, était notamment pour les organisations internationales. Donc on pouvait facilement prendre position, exprimer sa solidarité avec les journalistes parce qu'ils étaient clairement poursuivis pour leur opinion, etc. Mais récemment, comme tu viens de le dire, Saïd, on assiste à des accusations de nature pénale, comme le cas d'harcèlement sexuel, de traite d'êtres humains, pour le cas du journaliste Toufiq Bouachrine, qui est condamné à 15 ans de prison pour traite d'êtres humains, et aussi pour le cas de Souleymen Rissouni, qui est accusé de viol. Omar Radi, aussi accusé et de viol et d'espionnage. Donc oui, comme tu as dit, maintenant on assiste à une nouvelle ère par rapport à la nature des accusations envers les journalistes. Par rapport à ta question, pour ce qui est l'importance de la mobilisation de la société civile, des activistes, etc., des démocrates, que ce soit au Maroc ou ailleurs, comme on l'a entendu dans le témoignage du père de Omar, de M. Driss Radi. En fait, la première arrestation de Omar Radi, il a été relâché, je ne me rappelle plus, mais quelques jours après son arrestation, il a été relâché grâce à une grande campagne de mobilisation nationale et internationale. C'était grâce à la mobilisation, grâce à la solidarité nationale et internationale que Omar a été relâché. Donc, mais oui, c'est vrai, après il a été réincarcéré une deuxième fois, poursuivi pour d'autres, avec de nouvelles accusations. Mais la solidarité et la mobilisation sont très importants. Et ici en Belgique, par exemple, nous avons créé un comité de soutien pour les détenus politiques et aussi pour les journalistes, notamment pour les journalistes poursuivis au Maroc. Nous avons déjà organisé deux actions de solidarité. Une première action de grève de la faim symbolique de 24 heures. Et aussi, nous avons organisé un petit sitting devant la gare centrale ici à Bruxelles. C'était dans le cadre d'un sitting du mouvement du Hirak. Mais on a pu quand même parler des cas des journalistes de Omar Radi, de Souleymen Rissouni et des autres journalistes poursuivis. En fait, la situation au Maroc, la situation actuelle au Maroc est aussi marquée par le recours des autorités à la diffamation à l'encontre des opposants, des journalistes, en utilisant des sites qu'on appelle communément appelés au Maroc journalisme jaune. Je ne sais pas si vous... Donc, journalisme jaune, c'est pour désigner... tous les médias et sites d'information qui ne sont pas indépendants et qui travaillent à la merci du régime et des autorités au Maroc. Et donc, par exemple, toutes les dernières arrestations au Maroc, ils ont été précédées par de grandes campagnes diffamatoires à l'encontre des personnes qu'on allait arrêter par la suite. Et donc, maintenant, on sait dès qu'une campagne diffamatoire commence, dans tous les sites web et tous les médias en question, on sait que la personne sera immédiatement arrêtée suite à ces campagnes. Donc, par exemple, pour le cas du journaliste Souleymane Rissouni, un média en question, de ce genre de média diffamatoire, il a été même présent avec sa caméra, ses journalistes et tout, au moment de l'arrestation du journaliste devant sa maison. Donc, c'était en parfaite coordination entre les autorités et le journal en question. Ils étaient présents, ils ont filmé le moment de son arrestation. Et donc, et à ce propos, et ça, pour la campagne, ce recours à la diffamation, ça, à ce propos, je peux citer le manifeste d'un groupe de 110 journalistes marocains professionnels qui ont fait un appel aux autorités marocaines afin de prendre des mesures à l'encontre de ces médias de diffamation qui calomnient impunément les voix critiques, comme ils appellent, comme le cas du journaliste Omar Hadi ou Souleymane Rissouni. Donc, 110 journalistes professionnels ont fait un appel, un manifeste envoyé au gouvernement, au Conseil suprême de la presse, aux responsables, afin de dire qu'ils en avaient marre de cette situation, qu'ils veulent que ces médias soient aussi punis pour leur acte de diffamation à l'encontre de toute voix critique au Maroc.
Oui, suite à l'accompagnement de mobilisation, de soutien que vous faites, est-ce qu'il y a des actions prévues dans l'avenir
Est-ce qu'il y a des actions prévues oui, on veut bien. Au sein du, forcément, on est en train de réfléchir à ce qu'on peut faire, parce que vu aussi l'état actuel, avec le confinement, avec l'interdiction d'organisation d'activités physiques, etc., on est limité par rapport à nos actions. Mais forcément, il y aura quelque chose, on va organiser des actions et continuer la mobilisation pour la question des détenus. Et par la même occasion, j'appelle toute personne, tous les Marocains en Belgique, à Bruxelles, Marocains ou pas Marocains, qui seraient intéressés par la question, de nous rejoindre et si on peut organiser quelque chose ensemble. Vraiment, on en a besoin.
Oui, soutien internationaux, du coup. Est-ce que vous êtes en lien avec les soutiens au Maroc ou même dans d'autres pays, par exemple, s'il y a des réseaux en France ou aux Pays-Bas, je ne sais pas. Est-ce que vous arrivez à travailler ensemble pour
oui. Ça, ou... oui, notamment avec le groupe de Paris, Free Kulchi, parce qu'à Paris aussi, en France, ils ont créé un comité de soutien. Free Kulchi, c'est tous. Free, liberté pour toutes et tous au Maroc. Oui, on travaille en collaboration avec le comité. Ici en Belgique, nous avons déjà contacté la Ligue des droits humains, la Ligue belge des droits humains, aussi la FIDH, la Fédération internationale des droits humains. Nous avons contacté son avocat international ici présent à Bruxelles, monsieur Alexis. Il est déjà impliqué dans plusieurs dossiers de défense des droits humains, que ce soit ici en Belgique ou pour des dossiers internationaux. Oui, nous travaillons en collaboration avec d'autres ONG.
Il y a aussi les sections de la MDH au niveau de l'Europe.
Oui, la MDH a des sections en Belgique, en France, en Espagne aussi. Normalement, il devrait aussi s'activer sur la question. Oui.
Bien sûr. Merci Nidal, un grand, grand merci. Le temps vraiment qui nous presse, un grand merci,
merci
de votre témoignage. En espérant bien sûr à la liberté et à toutes et à tous les prisonniers politiques au monde. Bien sûr, avant qu'on vous laisse, chers amis, on va passer à l'agenda militante.
Pour ce qui est de l'agenda militant, tous les samedis de 12h à 15h ainsi que les mercredis de 12h à 15h, la brigade ouvre ses portes pour de la distribution de colis solidaires. Au même moment, au DK Migration, on propose un accompagnement social. Il y a des tables de conversation qui sont proposées au DK le vendredi de 14h à 18h et une distribution de colis au Steki tous les jeudis de 12h à 14h. Un agenda militant qui n'est pas très chargé, non pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de militantisme, mais parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. À bientôt.
أشلك لو حقهم وحقنا والو ما خلاو أش أصحاب في الحصانات اللي يكون ضمنوا في ظلكم ما جياش في وضرقونا بالقالون أش الغمى قل استغلوا حتى دي أش اللي كتبوا في الدبي صحوا لما بالي أش اللي باو لينا كلام خاوي وعوهان عيشونا بمقيم
بدون تعالى ما كاين والو
ما كاين والو تعيا ما تفهم ما غاتفهم والو تعيا ما تردم كاين الاخبار وكاين غسالو والو الاذاعه الصحافه الشوافه الجامع وجمعوا كلشي من الاقصر حتى العسكر والو غنهضر واخا كيبان ليك ما غنقدر نبدل والو والو ما عايشينش باش نعيش سكس شوف راسي كنتعرى ومازال سكس والو في هاي الضحكين علينا ردونا نكسه كيهضروا على الصحراء وحروا حتى سبسه والو تا شي حاجه ما كتفرح كنفرحوا رفاقينا لا ربحوا ناقصانا الفرحه شادنا القرحه لا ثقافه لا فن لا ابداع لا كتاب لا مجتمع لا جمعيات لا احزاب كلخ الشعب والو والو ما معسخش هي بلاكشي اما في جيشهم اما في جيشي والو ديرها فراسك وما تعشقش على حقك والو ديرها لوغو غوش بيها في مضارة قولها لهادوك اللي بغاو يسوقوا والو غرقونا فهمتم المصدية خطابات اجتماعات في القاعات فوقاعات الحرية النخبة فينك فين مخبية كنلقى في جنبي غير امي الشوكية والو راه ما باغي والو واللي بغيتها كناخدها بزز مع الاسم كنزز انسان حيوان وعندي قيمة غير ربح انت بديك الكريمة والو والو ما معتقش ما عشاش راه البلاد ديالنا ماشي ديالو تا والو راه ما كاين والو والو قال هذاك اللي كيفاش في الزنقة مسخن بالستيلي واللي بحالي نفسو حارة كيتحرك ملي كيشوف الحقرة والو ما كيخلعنا والو من غير دماغنا بحال اي واحد بحال الرقم السادس وعدنا زايد ناقص كابرين غير بالخبز واتاي والرديخ في الدس معلم ماقص من والو قدروا نديرو شي حاجة الحجار هاد القجال اللي قاسينا خلاتنا ما نديرو والو والو اللي كنقولو عليهم كفار خرانا كيصايبو بمكانة وصلوا فين وحنا مازال مطايفين مع كدار ما كانتش جوالو غير متقلين على الكورة بكلاخنا غنطلعو للشمس ماشي للقمر بغينا ما كسار ولكن راه ما كاين والو ديرو شي لعبة ما تبقاوش حوالو والو ترى ما خاصو والو هاد العالم خاصه غبطونا نتوما وركو عليها وهنونا وركو عليها راه ما غاديش تخلعونا
Yeah.
عليك والو 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 الكون القرقوب والله تا والو.